Page 130. Elle ne dit pas « j'ai bien reçu le cadeau que tu m'as envoyé », mais elle dit « j'ai bien reçu le cadeau que tu m'as envoyé et je te suis vraiment très reconnaissante pour cela ». La personne reconnaissante n'a pas honte de dire « ta présence, ta visite, ta lettre, ta carte ont apporté un grand réconfort, une grande consolation, une grande joie à mon cœur ». La personne reconnaissante ne se dit pas dans son cœur ces mots, exprime une trop grande reconnaissance pour la situation actuelle. Je veux les garder pour une autre occasion. En effet, elle sait qu'en faisant cela, elle minimiserait ce qu'elle vient de recevoir et elle resterait dans l'attente de quelque chose de plus grand qui pourrait bien ne jamais arriver. Une profonde reconnaissance est le fruit d'une œuvre profonde de Dieu. Aussi celui qui est conscient d'avoir reçu du Seigneur des bénédictions spirituelles commence par être reconnaissant envers ceux que le Seigneur a utilisés pour le bénir. Il est reconnaissant envers celui qui lui a parlé pour la première fois de Jésus, celui que le Seigneur a aussi utilisé pour lui parler du Seigneur, celui qui lui a donné pour la première fois un traité, celui qui a combattu dans la prière pour lui, celui qui a prêché ou chanté le jour où il a accepté Jésus comme son Sauveur, celui qui l'a invité à cette réunion, celui qui l'a conseillé, celui qui l'a baptisé, celui qui l'a encouragé, celui qui l'a aidé à grandir, celui que Dieu a utilisé pour l'aider à traverser de graves crises ou de plus petites, celui qui l'a restauré quand il était en train de rétrograder, celui qui lui a acheté ou prêté un livre. D'une manière générale, toute personne qui a été utilisée par le Seigneur pour l'aider dans sa vie spirituelle. Si quelqu'un est reconnaissant pour les bienfaits spirituels qu'il a reçus, il le sera pour toutes les autres choses. La personne reconnaissante montre sa gratitude en faisant bon usage de ce qu'elle a reçu. Page 131. La personne reconnaissante donne en retour à ceux qui lui ont donné, de la même manière et même au-delà. Elle donne aussi à ceux qui ne lui ont rien donné. Les gens reconnaissants ne se plaignent jamais de rien. Ils ne se plaignent jamais de rien. Se plaindre est une marque d'ingratitude? La gratitude et la plainte ne peuvent exister en même temps dans un même cœur. Fais de la reconnaissance ta manière de vivre. Refuse toute dette d'ingratitude. Amen. Page 132, chapitre 6. La croix et la domination du monde. Quand un homme voit ce que Dieu voit et répond à l'appel de Dieu, avec tout ce qu'il est et tout ce qu'il a, il est réellement entré dans la domination. Page 133. Vivre le royaume de Dieu sur la terre, s'engager à être sur terre comme Jésus a été celui qui veut participer à la vie du royaume de Dieu sur la terre doit s'engager à être ici-bas comme le Seigneur Jésus-Christ a été lorsqu'il était sur la terre. Quelles sont les caractéristiques d'une telle personne? Cette personne a un seul objectif, connaître Dieu, et n'a qu'une seule source de satisfaction, Dieu. Une telle personne ne cherche la satisfaction et le plaisir en personne d'autre et en rien d'autre. Une telle personne peut alors dire à Dieu, avec une bonne conscience, quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre je ne prends plaisir qu'en toi, psaume 73, 25. Une telle personne va dire aussi, il n'y a personne que je désire sur la terre sinon toi, ô mon Dieu, cette personne n'a qu'un seul désir, Dieu. Pour accomplir ceci, cette personne met à mort tous les autres désirs, et elle les met à mort aussitôt qu'ils surgissent en elle? Elle les met à mort sans pitié? Ce pourraient être des désirs innocents, de bons désirs, des désirs purs, mais elle les étrangle tous parce que même le meilleur désir va interférer avec son seul désir qui est Dieu. Cette personne s'engage à ne rien rechercher pour elle-même, à ne rien vouloir pour elle-même et à ne rien demander pour elle-même. Elle ne recherche que Dieu, la justice de Dieu et le royaume de Dieu, pleinement persuadée que le Père Céleste connaît tous ses besoins et qu'il pourvoira à ses besoins. Cette personne sait que c'est une question de priorité. Si elle avait 1000 ans à vivre sur cette terre, elle pourrait chercher les choses du royaume de Dieu et aussi les choses pour son propre plaisir. Cependant, personne n'a devant lui 1000 ans à vivre. Chacun est sur terre pour un temps très limité. L'éternité va bientôt surprendre tous les hommes. Le temps va s'arrêter pour tous. Ceux qui ont atteint la maturité spirituelle consacrent tout le temps dont ils disposent à rechercher les intérêts de Dieu. Ils ne perdent pas de temps à rechercher leur propre satisfaction. Page 134. Cette personne s'engage à ne pas chercher les faveurs des autres, à ne pas chercher à être aimée, acceptée, louée, vue, encouragée, connue, comprise par les autres. Elle cherche à être aimée, acceptée, louée, vue, encouragée, connue et comprise par l'Éternel Dieu qui est le seul amour de son cœur. Cette personne ne fait rien pour attirer l'attention sur elle-même, même dans la mesure la plus infime, puisque tout regard porté sur elle sera un regard enlevé au Seigneur. Elle ne désire absolument pas se faire remarquer par son habillement, son langage, ses idées, ses actes, etc. Son seul désir est que Christ puisse être vu en elle. Cette personne contraint son cœur, sa pensée, sa volonté, sa force à revêtir tout le caractère de Christ. Ce caractère de Christ devient le seul habit véritable dont elle se revêt. C'est une tâche solennelle pour cette personne que devrait se revêtir du caractère de Christ. Cette personne investit tout son temps à chercher la face de Dieu, à connaître Dieu, à travailler pour Dieu. Cette personne n'a qu'une seule pensée, à chaque minute de sa vie, comment puis-je apporter la plus grande gloire à Dieu? Elle cesse de rêver, elle est réaliste. Elle pense au moment présent, pleinement consciente du fait qu'à la seconde qui suit, elle pourrait être appelée à rencontrer Jésus et à lui rendre compte de sa gestion. Cette personne s'engage à faire tout ce qui va satisfaire le cœur de Dieu et ne connaît aucune seconde d'oisiveté, de paresse, de relâchement, d'indécision. Elle gère chaque minute devant elle comme une chose précieuse, pour laquelle elle devra rendre compte devant le tribunal de Christ. Elle est tout à fait consciente de l'imminence de l'éternité. Elle gère par conséquent chaque minute. Page 135. Devant elle comme si c'était sa dernière minute. Cela signifie qu'elle ne fait que les choses qu'elle ferait si elle savait qu'elle n'avait plus qu'une minute à vivre. Cette personne n'engage aucune relation nouvelle dans le seul but d'avoir une relation supplémentaire. Il y a seulement deux raisons acceptables pour construire une nouvelle relation avec quelqu'un, soit parce que l'autre personne l'aidera à s'approcher de Dieu, soit parce qu'elle veut aider l'autre à s'approcher de Dieu. Les autres raisons qui pousseraient à entamer une nouvelle relation, comme la beauté physique, le charme, la brillance, l'attraction, sont des choses qui ont définitivement perdu leur puissance de séduction pour une telle personne et qui n'ont rien à lui offrir. Cette personne veille à être authentique. Pour cela, elle s'assure que chacune de ses pensées, que chacune de ses paroles, que chacun de ses actes est selon la vérité, car Dieu connaît la vérité pour ce qu'elle est. Cette personne veille à ne donner consciemment aucune impression fausse d'elle-même ou de quelqu'un d'autre. Elle veille à éliminer de manière radicale toute exagération, toute demi-vérité, toute insistance hypocrite, toute fausse réserve, toute parole à double sens. Une personne authentique est transparente dans ses pensées, ses paroles et ses actes, car seul ce qui est sans ombre paraîtra devant le Seigneur de toute gloire. Elle considère tous les menteurs comme étant du diable et que les temps de feu leur est réservé, de même qu'il est destiné à recevoir celui qui est le père de tous les mensonges, le diable. Cette personne vit dans la pleine certitude que toutes choses seront révélées devant le tribunal de Christ. Elle ne craint l'opinion de personne sauf celle du juge devant qui elle paraîtra. Page 136. Cherchez à voir le monde tel que Dieu le voit. Celui qui veut participer à la vie du royaume de Dieu sur la terre doit également s'engager à coopérer avec Dieu afin que Dieu lui accorde sa vision du monde. Une telle personne est élevée par le Seigneur jusqu'à une position où elle peut voir le monde tel que Dieu le voit. De cette position, elle voit des vies brisées, des corps brisés, des pensées brisées, des espoirs brisés, des ambitions brisées, des personnalités brisées, des relations brisées, des cœurs brisés, des foyers brisés, des nations brisées, un monde brisé. Cette personne réalise que tous ont besoin de guérison et elle s'engage à être un instrument de Dieu dans son œuvre de guérison. De cette position, elle voit également les principautés, les dominations, les trônes, les autorités, les princes, les puissances, les armées spirituelles du mal dans les lieux célestes, les armées spirituelles du mal dans les lieux terrestres, les systèmes terrestres, les gouvernements terrestres, les religions, les organisations, les doctrines, les individus, tout ce qui se tient sur le chemin du Seigneur, et cette personne s'est engagée sans réserve à abattre. Page 137. Parce qu'elle a été suffisamment élevée avec le Seigneur, cette personne a cessé de voir le monde en fragments. Elle ne voit pas le Cameroun à part, comme étant son pays, et le Nigeria ou le Tchad à part, comme n'étant pas son pays. Elle voit seulement un monde unique, le monde de Dieu. Elle voit un seul peuple créé par Dieu et perdu, sans sauveur. Cette personne s'engage, comme son sauveur s'était engagé dans l'œuvre du salut pour tous les hommes. Elle demandera et recevra du Sauveur un cœur assez large pour englober tous les hommes du monde. Elle priera, donnera, travaillera, servira pour le salut de tous sans aucune discrimination. Parce qu'elle a vu ce que Dieu voit, elle aimera tous les pécheurs du monde entier de la même manière. Même si elle ne peut pas œuvrer pour eux tous avec la même intensité, elle ne sera jamais capable de s'intéresser à un groupe de pécheurs en se désintéressant des autres groupes. Si elle travaille en Occident, elle travaillera dans une région considérée comme une partie du monde entier et non comme si ce travail était une fin en soi. Son cœur appartiendra toujours au monde entier de Dieu et elle travaillera toujours pour tous les hommes dans ce monde, même si elle ne peut pas travailler dans chaque partie du monde. Elle ne connaîtra pas de barrières, de préjugés ou de préférences, que ce soit d'ordre tribal, national, continental, racial, de couleur, etc. Puisque tous appartiennent à Dieu, qui a payé le même prix pour le salut de chacun. Cette personne sera comme Dieu, qui ne préfère pas les Australiens aux Asiatiques, ni les Américains aux Africains, mais désire le salut de tous avec la même intensité. Parce qu'elle voit les choses de cette façon, son ministère reste global, même si elle est isolée dans un petit village de montagne, en travaillant jusqu'au sang, pour le salut de ses habitants. Grâce à sa vision qui est comme celle de Dieu, elle se réjouira chaque fois que quelqu'un est sauvé, quel que soit l'individu utilisé par Dieu, pour amener ce pécheur à la lumière de l'Évangile. Elle va seulement se réjouir du fait qu'avant, cette personne était page 138, perdue et que maintenant elle est retrouvée. Elle n'aura aucun esprit partisan au sujet des différentes organisations d'évangélisation. Certaines feront leur travail mieux que d'autres, certaines seront plus éclairées que d'autres, mais partout où elle trouvera des personnes qui amènent véritablement les gens à la vie en Jésus-Christ, elle remerciera Dieu et ne dira pas « ce sont mes convertis ». Elle aidera tous ceux qu'elle pourra grandir jusqu'à la maturité spirituelle. Elle aidera tous ceux qu'elle pourra, selon que le Seigneur la guidera, à être plus efficace dans l'œuvre du Seigneur, sans tenir compte du nom de leur groupement. Elle ne s'appliquera pas à détruire l'œuvre que le Seigneur accomplit à travers d'autres ouvriers, simplement parce que ceux-ci ne travaillent pas de la même manière. Elle reconnaîtra qu'ils sont différents d'elle par l'éducation, la profondeur de la vision, l'expérience spirituelle, l'arrière-plan culturel, et que par conséquent, ils sont voués à voir les choses d'une façon un peu différente de la sienne, ainsi qu'à les comprendre et les accomplir différemment. Si leur façon de voir ne constitue pas un obstacle pour le salut des perdus, elle les acceptera et les encouragera, bien qu'ils puissent faire les choses d'une façon différente de la sienne. Si les autres s'appliquent à détruire son œuvre, elle ne cherchera pas à détruire la leur en retour, car ce serait une double perte pour le royaume de Dieu. Si l'ennemi les utilise pour détruire ce qu'elle fait pour le Seigneur, elle continuera néanmoins à tout faire pour soutenir leur œuvre, afin qu'au moins une œuvre puisse subsister pour Dieu. Elle acceptera comme ses frères tous ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ, sans tenir compte des limitations de leur connaissance concernant le Seigneur, sa parole, le diable, le monde, etc. Elle acceptera tous ceux qui sont nés de nouveau comme ses frères, sans tenir compte de leur degré limité de lumière ou d'obéissance. Elle les acceptera parce que Jésus les a acceptés et qu'il est venu habiter dans leur cœur par le Saint-Esprit. Elle les... Page 139. Acceptera, mais elle n'imitera pas leur ignorance, puisqu'elle a été éclairée. Elle ne s'arrêtera pas sur le chemin de l'obéissance là où ils se sont arrêtés, car elle sait qu'il lui faut, comme de plus en plus de personnes, obéir à tout le conseil de Dieu. Elle proclamera tout le conseil de Dieu qu'elle a reçu et ne retiendra pas un seul iota pour faire plaisir à quelqu'un, pour permettre l'unité, pour éviter des problèmes, etc. Cette personne va tout proclamer sans rien omettre, parce que le Seigneur a ordonné que tout soit proclamé, et elle laissera le Seigneur se charger des résultats et des conséquences. Elle n'abandonnera aucun aspect de la vérité afin de promouvoir l'unité. Elle aimera tous les frères, elle aimera toute la vérité qu'elle a reçue, et elle proclamera tout afin de coopérer avec Dieu pour promouvoir l'unité dans la vérité. Cette personne travaillera pour le Seigneur de tout son être et se dévouera pour la gloire de Dieu, sans chercher à savoir qui sera honoré par les hommes pour son œuvre. Si elle est honorée par les hommes, cela la laissera indifférente. Si quelqu'un d'autre est honoré grâce à son œuvre, cela ne la dérangera pas du tout. Sa seule joie est que l'œuvre de Dieu soit accomplie. Elle travaillera autant que possible sans être remarquée, afin que l'attention, qui revient au Seigneur, ne se porte pas sur elle. Elle a perdu depuis longtemps le désir d'être vue, d'être honorée et louée. Si les autres veulent l'honneur et la louange pour son œuvre, elle ne lutte pas pour que ce soit le Seigneur qui reçoive l'honneur et non eux. Elle les laisse avoir l'honneur des hommes, car le Seigneur ne peut pas être détrôné. Celui qui participe à la vie du royaume de Dieu sur terre voit clairement la croix de Christ. Il voit que Christ n'est pas mort sur la croix pour le bien du Père, du Saint-Esprit ou de lui-même. Il voit que Christ a porté sa croix et qu'il est mort sur cette croix pour le bien des autres, des perdus, pour toi et pour moi. Il voit aussi qu'il y a deux croix, la première, celle sur laquelle Christ est mort pour lui et avec lui une fois pour toutes, et l'autre, sa propre croix. Non pas comme quelque chose du passé, mais comme quelque chose du présent, non pas comme un événement. Page 140. Ou une expérience unique, mais comme quelque chose dont il faut se charger chaque jour et où il faut mourir chaque jour. Il se charge chaque jour de sa croix et meurt chaque jour. Non pas pour le Seigneur, car Dieu n'a pas besoin qu'un individu se charge d'une croix, mais pour le bien de ceux qui sont dans le monde. Il porte une croix personnelle et meurt quotidiennement dessus, afin que les gens dans le monde, à la fois les sauvés et les non-sauvés, puissent avoir la vie de Dieu. Il meurt à ses désirs et à ses besoins pour que les ressources, le temps, l'énergie, qui étaient autrefois investies dans la satisfaction de ses désirs et de ses besoins, soient maintenant utilisées à combattre pour faire entrer les hommes dans le royaume. Il meurt à sa famille, à sa tribu, à sa nation, etc., afin que ceux qui sont perdus dans le monde puissent entrer dans la famille de Dieu et appartenir au royaume de Dieu. C'est à quoi il travaille, prêt à tout sacrifier et à tout souffrir, afin que d'autres reçoivent un héritage parmi le peuple de Dieu. Il fait tout cela, non pas pour que Dieu le récompense, mais pour que les perdus passent de la mort à la vie. La joie de les voir changer de destinée constitue sa récompense. Pour couronner tout cela, le maître lui dira ces paroles « Béni, tu as bien fait, bon et fidèle serviteur », et il lui mettra une couronne sur sa tête. Mais il ne gardera pas cette couronne sur la tête. Il l'enlèvera et se prosternera devant le Seigneur des cieux, et, en l'adorant, il jettera ses couronnes à ses pieds. Ainsi, toutes les récompenses qu'il aura reçues seront déposées devant le Seigneur, auquel est dû l'incomparable privilège de recevoir la couronne méritée. Vivre ainsi sur terre, c'est entrer dans la domination. Amen. Faire des disciples une responsabilité qui incombe aussi aux femmes. Celui qui veut participer à la vie du royaume de Dieu sur la terre, qu'il soit disciple ou veuille le devenir, quel que soit son rang social, son sexe ou la couleur de sa peau, doit s'engager à obéir aux commandements que Jésus a donnés aux premiers disciples. Page 141. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, 19-20. Ce commandement implique que tous les croyants doivent faire des disciples et doivent leur enseigner à faire eux-mêmes d'autres disciples. Les membres féminins du corps de Christ ont donc aussi la responsabilité de faire des disciples et de leur enseigner à faire d'autres disciples. Par conséquent, une femme qui est disciple doit savoir qu'elle a la responsabilité devant Dieu d'amener des personnes à Christ, hommes et femmes, et, quand ceux-ci auront cru, qu'elle doit les enseigner à devenir des disciples et aussi à faire d'autres disciples. Une femme disciple doit être capable d'exercer les ministères suivants, selon l'appel de Dieu dans sa vie et les dons qu'elle a reçus du Seigneur. 1. Tous les ministères d'évangélisation, prêchés pendant les croisades d'évangélisation ou à tout autre rassemblement prévu pour la prédication de l'Évangile, chanter pendant les croisades d'évangélisation, conseiller les personnes nouvelles pendant les croisades d'évangélisation, prier pour les croisades et pendant les croisades, prier pour la guérison des malades pendant les croisades, pratiquer la délivrance des démons pendant les croisades, rendre témoignage pendant les croisades, rédiger des traités et brochures d'évangélisation, produire des cassettes d'évangélisation, écrire des livres d'évangélisation, établir un ministère d'évangélisation, tout ce qui est en rapport avec un ministère consistant à apporter Christ aux perdus. 2. Tous les ministères auprès des enfants, lancer une nouvelle œuvre concernant les enfants, page 142. Développer une œuvre concernant les enfants, soutenir une œuvre concernant les enfants, tout ce qui est en rapport avec un ministère auprès des enfants. 3. Tous les ministères auprès des femmes, l'évangélisation des femmes, l'enseignement des femmes, tout ce qui est en rapport avec un ministère auprès des femmes. Une femme peut être pleinement engagée dans ces trois principaux aspects du service chrétien sans enfreindre aucune partie de la parole écrite. Le Seigneur s'attend à ce que les femmes soient engagées. Où sont les femmes évangélistes? L'Écriture interdit seulement aux femmes d'usurper l'autorité des hommes dans l'Église. L'évangélisation se faisant dans le monde, une femme ne peut pas usurper l'autorité des hommes dans l'Église, quel que soit son ministère dans le monde. J'encourage les sœurs à rester à l'écoute du Seigneur et à s'attendre à ce qu'il leur confie divers ministères dans la grande œuvre, qui consiste à faire connaître Christ au monde. Elles ne doivent pas écouter les hommes paresseux qui ne connaissent rien de ce ministère, qui ne font pratiquement rien et qui veulent dominer leurs sœurs. Les femmes et la création d'assemblées locales, ce que nous dirons au sujet de l'implantation des assemblées locales s'applique aussi bien aux frères qu'aux sœurs. Si le Seigneur envoie des sœurs dans un endroit où il n'y a pas d'assemblée locale, elles doivent entreprendre un programme de prière et de jeûne pour l'implantation d'une église. Après cela, elles doivent aller de l'avant, conduire les gens au Seigneur, les baptiser et commencer une assemblée locale. Il faut évidemment qu'elles soient des disciples et qu'elles cherchent à faire des disciples. Elles doivent enseigner dans l'assemblée locale tant que les nouveaux membres sont encore jeunes et inexpérimentés dans les choses du Seigneur. Toutes ces personnes de l'assemblée locale qui sont encore jeunes et inexpérimentées dans les choses du Seigneur et... Page 143. Qui ont besoin d'être enseignés seront aussi bien des hommes que des femmes. Cette sœur ne peut être en train d'usurper l'autorité de quiconque à ce stade de son œuvre pour le Seigneur, car aucun homme dans l'Église n'a encore acquis d'autorité spirituelle. Notre autorité dépend étroitement de la connaissance du Seigneur, de sa parole et de notre histoire spirituelle. À mesure que l'assemblée grandit, des hommes grandiront dans le Seigneur et vont acquérir l'autorité spirituelle. Ils connaîtront le Seigneur et sa parole et seront capables de diriger et d'enseigner l'assemblée locale. À ce stade, la sœur qui a commencé l'assemblée doit remettre la direction spirituelle de l'Église aux hommes de l'assemblée capables de la diriger. Elle demeurera membre de l'assemblée, ça donnera à la prière et aux autres activités que le Seigneur lui montrera ou montrera à l'assemblée elle-même. Si cette sœur a expérimenté la mort avec Christ et si les hommes de l'assemblée apprennent rapidement à mourir à leur ego masculin, il n'y aura aucun problème. Mais cela requiert une œuvre de la croix qui soit profonde et totale. À défaut de cela, le désir de la femme de prendre plaisir à commander les hommes et l'ego charnel de l'homme entreront très vite en conflit dès que des hommes seront convertis, et cela pourrait détruire complètement l'assemblée locale. Ainsi, le problème sera résolu par la soumission des jeunes convertis masculins et par leur désir d'être enseignés par une sœur qui a fait des progrès dans sa marche avec le Seigneur, ainsi que par la volonté manifestée par cette sœur de s'effacer lorsque le Seigneur aura fait lever des hommes pour diriger l'assemblée. Quelques idées fausses concernant le ministère des femmes. Les femmes ne devraient pas prier dans une assemblée locale. Or, la Bible veut qu'elles prophétisent, qu'elles parlent en langue, qu'elles interprètent les langues et qu'elles se couvrent la tête pendant qu'elles prient. Les femmes ne devraient ni évangéliser sur un plan personnel, ni prêcher pendant les campagnes d'évangélisation. Ceci n'a aucune base biblique. L'évangélisation se pratique dans le monde et non pas dans l'Église. Tu n'évangélises pas l'Église, puisqu'elle est composée de croyants. Page 144. Aucune femme ne devrait créer une assemblée locale. Cela signifie que si une femme arrive dans un endroit où il n'y a pas d'assemblée, de peur d'usurper l'autorité, elle devrait garder le silence et laisser les pécheurs mourir. Une telle pensée vient du lac de feu et du royaume des ténèbres, car elle n'apporte la vie à personne. Sœur, réveillez-vous et allez-y. Toute sœur qui veut participer à la vie du royaume de Dieu, sur la terre doit répondre oui à l'appel de Dieu pour faire connaître Christ. Elle a sa place dans la grande moisson du Seigneur et elle accomplit son ministère pour la plus grande satisfaction du cœur de Dieu. Il est conseillé qu'elle s'associe à un frère qui a reçu un ministère distinct chaque fois que le Seigneur rend la chose possible. Ceci lui évitera beaucoup d'ennuis et lui procurera une couverture et une protection masculine qui sont parfois absolument nécessaires dans certains endroits et pour que son œuvre soit à la gloire de Dieu. Sœur, pourquoi attendre? Levez-vous, placez-vous devant le Seigneur. Recevez un ministère du Seigneur et accomplissez-le. Gloire soit au Seigneur. Comment implanter une assemblée locale? Le Seigneur est à l'œuvre dans le monde. Il appelle à lui, hors du monde, un peuple réuni autour du nom de son Fils glorifié. Ce peuple constitue les croyants. Le Seigneur appelle ceux qui lui appartiennent à se réunir en assemblée locale, partout où ils se retrouvent, que ce soit dans la jungle ou dans une grande ville. Ils doivent être séparés du monde, bien qu'étant dans le monde, et mis à part pour le Seigneur Jésus. Ils doivent s'aimer les uns les autres et être unis dans le nom du Seigneur, et seulement en son nom. Chacun d'entre eux doit grandir à sa ressemblance. Le Seigneur s'attend à ce que ceux qui lui appartiennent réellement dans une localité se rassemblent. Si l'un d'entre eux se déplace pour aller résider dans un autre endroit où il n'y a pas d'eux. Page 145. Frère, il doit conduire les perdus au Seigneur et faire d'eux des disciples. Ils constitueront une assemblée là où ils sont. Ces croyants doivent regarder au Seigneur pour qu'il réponde à leurs besoins. Ils doivent étudier la parole et lui obéir en fonction de la lumière que le Seigneur leur accorde. Ils peuvent recevoir des enseignements donnés par des hommes de Dieu en visite chez eux, mais ils doivent se soumettre à leurs dirigeants locaux. Ils seront indépendants et regarderont au Seigneur, mais resteront soumis les uns aux autres. Ils doivent résoudre tous les problèmes auxquels ils font face dans un esprit de soumission mutuelle. Ils doivent dépendre du Saint-Esprit et agir selon le logo et l'urma de Dieu qui leur sont accordés par le Saint-Esprit. Ils ne doivent accepter aucune division. Ils doivent avoir la vision du Seigneur et regarder à lui pour qu'il les rende capables de remplir le monde de l'évangile de son amour et de son pardon. Ils doivent accepter tous ceux que le Seigneur accepte et rejeter tous ceux que le Seigneur rejette. Ils doivent être sensibles au Seigneur et s'assurer ainsi qu'ils ne rejettent aucune personne que le Seigneur a acceptée ou n'acceptent aucune personne que le Seigneur a rejetée. Ils doivent être ouverts au Seigneur et obéir à toute nouvelle lumière que le Seigneur leur donne. Ils doivent éprouver tout esprit pour s'assurer qu'ils ne sont pas entraînés dans l'erreur. Ils doivent faire confiance au Seigneur et continuer à avancer avec lui en refusant de mettre leur confiance dans les institutions humaines qui sont toujours changeantes. Leur mandat d'existence vient du Seigneur des cieux et ils n'ont besoin d'aucune autre autorisation pour exister et fonctionner. Ils peuvent être persécutés et ils le seront, mais ils peuvent faire confiance à celui qui a dit « Je bâtirai mon église » et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles. Matthieu 16, 18. Ils ont en vérité l'assurance que le Seigneur est présent parmi eux, quel que soit leur nombre et leur niveau de maturité, car il a dit « Je vous dis encore que, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre, pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu de » Matthieu 18, 1920. Page 146. La préparation personnelle. Celui qui réfléchit au fait que Dieu s'est engagé à tout réunir en Jésus-Christ doit envisager qu'un jour, il puisse avoir le privilège d'être envoyé dans un lieu sans assemblée locale pour y être un instrument que Dieu utilisera pour y implanter une assemblée. Il y a certaines choses qu'une telle personne doit savoir et certaines choses auxquelles elle devra se préparer. Une conversion radicale, si tu penses être utilisé un jour dans la création d'une assemblée locale, tu dois t'assurer que tu es réellement converti. Tu dois t'assurer que tu es réellement passé de la mort à la vie, que l'Esprit de Dieu t'a donné la vie et que Dieu t'a réellement reçu comme son enfant. Tu dois t'assurer que le Saint-Esprit rend témoignage à ton esprit que tu es réellement un enfant de Dieu. Tu dois t'assurer que ton nom est écrit dans le livre de vie et que tu sais que tu ne périras jamais. Tu dois aussi t'assurer que ta conversion à Christ t'a séparé de tout péché, que tu ne fais rien de ce que Dieu interdit et que tu as été délivré de tout péché. Si tu vis encore dans un péché, tu ne peux pas être utilisé par le Seigneur pour commencer une assemblée locale, car, en vivant consciemment dans le péché, tu es en train de te liguer avec le diable contre le Seigneur ? Comment peut-il donc faire de toi son capitaine dans une localité? Tu dois aussi t'assurer que tu as définitivement dit adieu au monde, à sa vanité, à son orgueil, à sa célébrité, à son honneur, à sa louange et à tout ce qu'il offre. Tout ce que tu cherches dans le monde, c'est la gloire du Seigneur et absolument rien d'autre. Si tu ne connais pas une telle séparation radicale du monde, l'assemblée locale que tu établiras sera mondaine et le Seigneur pourrait refuser de s'identifier à elle. Et à l'esprit que dans une large mesure, l'assemblée locale sera le reflet de tes pensées, de tes paroles et de tes actes. Veille sur ta vie intérieure, car elle sera communiquée aux autres, même si tu n'extériorises pas ce qui est dans ton cœur par le langage ou l'action. Page 147. Tu dois être sûr que tu as une bonne compréhension de la parole de Dieu, que tu as parcouru la Bible plusieurs fois et que tu as appris à attendre devant le Seigneur, à entendre ses voix et à agir comme il a dit. Tu dois alors faire tout ce que tu peux pour t'attendre de plus en plus au Seigneur. Tu dois saisir toutes les occasions possibles pour lire de bons livres qui vont t'édifier dans le Seigneur. Tu dois faire de ton mieux pour connaître tout ce que tu peux connaître. Tu dois être prêt à souffrir et à mourir pour la raison que tu as implanté une assemblée locale. Si tu n'es pas prêt à cela, il est inutile de commencer. Il se peut que tu sois jeté en prison ou tué. Tu seras sûrement persécuté. Admets-le et reconnais-le sans détour. Si tu veux commencer une assemblée locale qui ressemble à celle dont parle le Nouveau Testament, alors tu dois être prêt à aller contre le courant de l'opinion religieuse, le courant de l'opinion publique, etc. Tu auras une seule sécurité, le Seigneur, qui a promis de bâtir son Église et au nom duquel tu veux agir. Tu dois être prêt à regarder au Seigneur et seulement au Seigneur pour la satisfaction de tes besoins. Tu amèneras au Seigneur. Il te faudra regarder à lui pour dans la vie des convertis. Il te faudra regarder à lui pour assurer ta sécurité. L'apport de fond. Gagner les âmes. Qu'il se révèle à ceux que la formation de Christ toute chose. Tu dois avoir à l'esprit que tu ne tourneras tes regards ni vers une personne, ni vers un pays, ni vers un système, quel qu'il soit. Ceux-ci te décevront. Tu regarderas au Seigneur et à lui seul, et tu lui donneras la liberté d'utiliser n'importe quel moyen pour pourvoir à tes besoins. Tu n'auras pas besoin d'écrire à la capitale. Page 148. Pour obtenir de l'argent, des bancs d'église, des haut-parleurs, des livres, etc., tu n'auras pas besoin de recourir à la mission du plein évangile pour les autorisations légales. Il faut que le Seigneur soit ton autorisation. Si tu es enfermé en prison pour avoir prêché, tu n'attendras pas que quelqu'un vienne te libérer. Tu regarderas au Seigneur pour ta libération s'il le veut. L'apôtre Pierre a été enfermé en prison et le roi Hérode se préparait à le tuer. À ce sujet, la Bible dit la nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de deux chaînes, dormait entre deux soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales ». Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux, ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout de ce que le peuple juif attendait » Actes 12, 6-11. Pourquoi les anges étaient-ils si disposés à faire ces choses pour lui? Parce que Pierre n'avait pas d'autre sécurité en dehors du Seigneur? Si tu as la sécurité de ton gouvernement, de ton autorisation d'exercer, des fonds que tu reçois régulièrement, etc., tu n'as pas besoin de la sécurité du Seigneur et le Seigneur n'enverra pas ses anges pour te secourir. Il n'ouvrira pas les portes pour toi. Cependant, le Seigneur peut décider que la meilleure chose n'est pas de te libérer de prison, mais que de permettre que tu meures. Jacques et Pierre étaient tous deux apôtres. Ils étaient tous deux fidèles. Ils avaient tous deux commis le crime de prêcher Christ comme Seigneur. Page 149. Cependant, la Bible dit vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre, Actes 12, 1-3. Le Seigneur avait permis que Jacques fût tué. Dieu délivra Pierre. Ils étaient tous deux des hommes de foi. Mais le résultat de la foi fut différent pour chacun d'eux. La Bible dit c'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens, qui en firent la tentative, furent engloutis. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent, après qu'on en eut fait le tour pendant 7 jours? C'est par la foi que Rahab la prostituée et ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephté, de David, de Samuel et des prophètes qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirant, fuite des armées étrangères. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection, d'autres furent livrées aux tourments et n'acceptèrent point de délivrance. Afin d'obtenir une meilleure résurrection, d'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison, ils furent lapidés, sciés, torturés, ils moururent tués par l'épée, ils allèrent çà et là vêtus de peaux de brebis et de peaux de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Tous ceux-là, à la foi desquels il a été rendu témoignage. Hébreux 11, 29-39. Vois-tu que ceux qui ont été délivrés de la mort et ceux qui sont morts étaient tous des hommes de foi? Dieu avait choisi de délivrer certains et avait aussi choisi de laisser mourir d'autres. Ils donnèrent gloire à son nom par leur vie ou par leur mort. Si tu t'engages à établir une assemblée locale, selon les principes indiqués dans la parole de Dieu, et à obéir jusqu'à la fin, tu peux t'attendre à ce que Dieu te donne la foi, pour être délivré des mains de tes persécuteurs, ou qu'il te donne la foi, pour mourir victorieusement entre les mains de tes persécuteurs. Pierre fut délivré à fin page 150, qu'il acheva l'œuvre de sa vie. Il dut finalement affronter le martyre de la crucifixion. Jacques avait déjà achevé l'œuvre de sa vie et Dieu permit qu'il fût tué. Tu ne peux pas savoir à l'avance si Dieu enverra son ange pour te libérer ou s'il permettra que tu sois mis à mort. Tu ne dois absolument pas t'en soucier. Si tu as proclamé un non définitif au monde et à tout ce qu'il offre, et si tu as proclamé un oui définitif au Seigneur Jésus et à tout ce qu'il décide, que ce soit la vie ou la mort, cela ne fait aucune différence pour toi. Si tu vis, tu vis pour lui et si tu meurs, tu meurs pour lui. Ainsi tu le glorifies par ta vie ou par ta mort. De cette manière, tu triomphes de la mort. C'est pourquoi il est de la plus haute importance que ta séparation du péché, du moi et du monde soit totale et entière. C'est pourquoi ta consécration à la volonté du Seigneur doit être entière, quelle que soit cette volonté. C'est pourquoi il te faut savoir avec certitude que tu es là où le Seigneur veut que tu sois, que tu fais ce qu'il veut que tu fasses, que tu agis au moment voulu par Dieu, que tu travailles de la façon dont il veut que tu travailles avec les personnes qu'il a préparées pour cela. C'est pourquoi il te faut savoir avec assurance que c'est bien le Seigneur qui t'a envoyé. Il te faut être sûr que tu as appris à dépendre de lui, à lui obéir et à lui seulement. À ce moment-là, ce ne sont pas les fonds venant de la capitale, de l'Allemagne ou de l'Amérique qui t'aideront. À ce moment-là, aucun dirigeant qui t'a poussé à partir ne te soutiendra. Seul Dieu te soutiendra. Aussi, sois bien sûr d'être au centre de sa volonté. L'apôtre Paul a dû affronter le tribunal. Il en parle en disant « Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit point imputé. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié, afin que la prédication fût accomplie par moi et que tous les païens l'entendissant de Timothée 4:16-17. » Page 151. Personne n'avait assisté Paul. S'il avait compté sur l'homme, il se serait trouvé dans une situation très grave. Cependant, il avait compté sur le Seigneur, et le Seigneur l'a assisté. Nous devons regarder au Seigneur? Nous devons regarder seulement au Seigneur? Il est nécessaire ici de mettre l'accent sur une attitude fréquente. Parfois, on agit par esprit de rivalité ou de compétition. Il y a aussi beaucoup de choses qui se font par imitation. Le frère X a écrit un livre, je vais aussi essayer d'en écrire un? Le frère Y a écrit un traité, je vais aussi essayer d'en écrire un? Le frère N a ouvert une librairie. Pourquoi pas moi? Le frère P a commencé un groupe de prière? Moi aussi, je peux en commencer un. La sœur W a jeûné pendant 10 jours. Moi aussi je vais jeûner pendant 10 jours et même 20.
La sœur béchante.
Moi aussi je vais me lancer dans un ministère de chant.
Le frère apprêche, crie et saute.
Moi aussi, je ferai de même.
Le frère C est incisif lorsqu'il parle.
Moi aussi je serai comme lui.
Tous ces produits d'imitation sont déjà jugés par le Seigneur?
Même s'il semble avoir un certain succès, il porte en eux la sentence du jugement.
Dans la nuit sombre de la persécution, tu auras à faire face à la vérité qui révélera pourquoi tu es à cet endroit et pourquoi tu as commencé cette assemblée locale.
Dieu t'avait-il envoyé ou bien y étais-tu allé de ta propre initiative?
Si tu es parti de toi-même, il faudra compter sur toi-même pour la protection, la croissance, les fruits, etc. et tu finiras par échouer devant Dieu.